Voici les titres du journal.
Guy Parmelin était chez Hugo Reitzel et ça à Aigle ce matin. Le président de la Confédération bat en effet la campagne contre les initiatives pour une eau potable propre et une Suisse sans pesticides de synthèse. Yves Terrani s'est glissé dans la visite. L'État de Vaud renforce encore son dispositif de vaccination. Des équipes itinérantes vont sillonner le canton dès mardi prochain avec l'espoir notamment de toucher des personnes vulnérables ou allophones. Et puis le canton de Vaud croit aussi au Pâques-Lavaux. Il est revenu hier avec une mouture revisitée du projet initial. 3 assouplissements sont proposés. Enfin, en hockey sur glace, le jeune joueur de la Tour de Paix, Noé Ben Salem, poursuit son rêve de devenir professionnel en Amérique du Nord. À 19 ans, le Vaudois sort d'une 3e saison disputée aux États-Unis.
Et pour la météo, c'est du mauvais temps qui est annoncé pour cet après-midi et même pour demain. La météo complète à la fin de ce journal. À la présentation de ce journal, Margot Regain. Bonjour Margot.
Bonjour. Guy Parmelin était en visite à Aigle ce matin. À l'effet de rencontrer Bernard Poupon, le président de la Confédération et chef du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, tenait à échanger avec le CEO de Reitzel SA. Au centre des discussions entre les deux hommes, les difficultés que pourrait rencontrer l'industrie agroalimentaire en cas d'acceptation le 13 juin prochain par le peuple suisse de l'initiative dite pour une eau potable propre et de celle intitulée pour une Suisse sans pesticides de synthèse. Yves Terrani, vous avez suivi la visite.
Oui, vous savez, le genre de visite millimétrée, formulaire d'inscription, document de l'entreprise en lien avec le Covid-19 à remplir, normal pour une entreprise agroalimentaire. Habituellement, lorsqu'un conseiller fédéral se déplace, les journalistes n'ont que peu de marge de manœuvre pour les interviews. 2-3 questions tout au plus, avec un communicant de la Confédération qui tapote sa montre pour vous faire comprendre qu'il faut faire vite. Eh bien, rien de tout cela aujourd'hui. Au contraire, Guy Parmelin a pris tout son temps.
Diriez-vous, Yves, que c'est parce que le sujet lui tient plutôt à cœur?
Il faut se souvenir en effet qu'avant d'être conseiller fédéral, Guy Parmelin a été agriculteur, diplômé de l'école de Marcelin, puis associé avec son père et son frère à la tête du domaine agricole familial de Bursin, village dont il est originaire. Il est aussi titulaire d'une maîtrise agricole avec viticulture, c'est dire que les deux initiatives dont vous avez évoqué l'intitulé Margot, initiatives qui seront soumises au peuple le 13 juin prochain, l'inquiètent.
Dans quel sens?
Pour Guy Parmelin, clairement, les deux textes vont trop loin. Selon lui, ils sont trop extrêmes et mal ciblés. C'est un autogol à lancer tout à l'heure à Aigle le Vaudois, sans se départir pour autant de son calme. En résumé, à l'écouter, si ces textes passent, la production agricole locale va chuter. Sans pesticides, il faudrait accroître la part des importations et donc transférer le problème à l'extérieur de nos frontières. Maintenant, il ne faut pas croire que Guy Parmelin se soucie comme d'une guigne de la santé du peuple suisse, bien au contraire. Simplement, a-t-il tenu à rappeler ce matin, la Confédération a déjà pris des mesures pour répondre aux préoccupations des initiants et réduire de manière efficace et concrète l'impact des pesticides sur l'environnement et donc sur la santé des gens. Guy Parmelin a aussi évoqué les risques de tourisme d'achat pour aller chercher ailleurs ce que l'on ne trouvera plus chez nous avec le bilan écologique que l'on peut imaginer.
Mais pour lui, il y a un plus gros danger encore.
Le président de la Confédération l'a dit à Aigle, ces initiatives s'attaquent carrément à la sécurité alimentaire de la Suisse. Or, a-t-il rappelé, l'agriculture, c'est notre assurance alimentation dans ce pays, un pays qui importe environ la moitié de ce qu'il mange. Et puis, il a aussi évoqué le fait que la situation pourrait s'aggraver en termes de pollution si nombre d'exploitations agricoles décidaient de sortir du système des paiements directs, paiements dont ne pourraient plus bénéficier les agriculteurs qui ne respecteraient pas les exigences écologiques prévues dans les initiatives telles que la préservation de la biodiversité, une production sans pesticides et des effectifs d'animaux nourris exclusivement avec le fourrage produit dans l'exploitation. Alors on vous laisse imaginer, les agriculteurs qui décideraient de sortir des paiements directs ne seraient donc plus obligés de tenir compte des prestations écologiques imposées.
Mais est-ce qu'on dispose de chiffres, Yves, à ce propos?
Alors Guy Parmelin n'est pas venu à Aigle seul, il avait emmené avec lui Christian Hofer, le chef de l'Office fédéral de l'agriculture. Ce dernier a précisé que si l'initiative sur l'eau potable propre passe, 20% des agriculteurs de Suisse pourraient sortir du système des paiements directs. Comme le président Guy Parmelin, Christian Hofer a d'ailleurs insisté sur l'importance de bien lire les textes des deux initiatives et de bien les différencier avant de voter, histoire de comprendre les enjeux dans leur globalité.
Et tout cela, Yves, a été évoqué sous le contrôle de Bernard Poupon.
Le CEO de Hugo Reitzel SA, un homme inquiet. On le sait, Reitzel est réputé pour sa production de cornichons, un produit délicat. À l'en croire, il serait impossible, ou alors vraiment très difficile, de maintenir une culture du cornichon local sans aucune protection des plantes, donc sans aucun pesticide. Bref, tout comme ses préopinants, Bernard Poupon a lancé un cri d'alarme en faveur de l'agriculture suisse et de l'industrie agroalimentaire. Un chiffre, actuellement, les cornichons bio achetés par Reitzel représentent quelques 50 tonnes sur 1000 achats. acheter. Sans parler de ce qui est importé, Bernard Poupon n'a pas caché qu'il faudrait au minimum 10 ans pour passer au tout bio. Irréaliste selon lui pour les agriculteurs, pour tout plein de raisons, comme par exemple la nécessité d'augmenter les surfaces agricoles. Voilà, une large discussion ce matin à la route d'Olon à Aigle avant que la matinée ne s'achève pour le président de la Confédération par une visite de l'entreprise Hugo Reitzel.
Merci Yves. Le président de la Confédération que l'on pourra donc entendre assez largement ce soir dans le club de Radio Chablais entre 17h et 17h30. L'avenir de l'hôpital du Samaritain se précise. Des représentants du canton, de l'hôpital Rivière-à-Chablais et de la fondation Beau-Site ont dévoilé aujourd'hui le projet imaginé sur le site Veuvezan. L'idée est créer un pôle tourné essentiellement vers les personnes âgées, mais comptant également une permanence médicale et des activités ambulatoires. Le Samaritain disposera dès le premier semestre 2023 de 47 lits de soins aigus et de réadaptation. Un nombre de lits qui pourra augmenter pour atteindre 75 si les besoins de la population vont crescendo. En attendant, les 28 lits restants serviront au cours ces jours et seront gérés par la Fondation Beau-Site.
Nouvelle phase pour la vaccination contre le Covid-19 dans le canton de Vaud.
Dès mardi prochain, un dispositif mobile ira à la rencontre de la population dans 31 communes à travers tout le territoire vaudois. Les habitants auront ainsi la possibilité de se faire vacciner au plus près de chez eux, selon un calendrier préétabli. Le dispositif permettra d'injecter au moins 400 doses par jour et pourra monter en puissance selon la disponibilité des vaccins. Précision avec la conseillère d'État en charge de la santé, Rebecca Roux.
Tout un chacun pourra venir. Pour une partie de la population, des rendez-vous devront être pris. Et puis on aura des tranches horaires durant la journée où on pourra venir en mode plus dispensaire, sans rendez-vous, puisqu'on sera situé aussi dans des endroits stratégiques, devant des magasins, sur des places publiques, là où on sait qu'il y a un certain nombre de passages. Et pour attirer les personnes et évidemment expliquer la démarche, on aura des facilitateurs, comme on les appelle, donc des gens qui seront expressément formés pour pouvoir répondre à des questions très spécifiques de gens qui sont peut-être aujourd'hui indécis et qui auront besoin de réponses pour pouvoir faire le pas. Et si elles souhaitent faire le pas, eh bien elles auront la possibilité de le faire immédiatement sur place.
Avec cette nouvelle étape, l'État de Vaud souhaite anticiper une éventuelle baisse de la demande. Au-delà des indécis, il compte aussi toucher des personnes vulnérables ou allophones qui n'auraient pas facilement accès à la vaccination autrement. Le canton en est persuadé, il faudra ce travail d'information et de communication sur le terrain pour atteindre ses objectifs de vaccination. On retrouve Rebecca Ruiz au micro de notre confrère d'LFM, Charles Super.
C'est du moins ce qu'on observe dans les pays plus avancés. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on observe aussi dans d'autres types de campagnes de vaccination, évidemment pas contre le Covid, mais pour d'autres maladies. On voit que au début, on a des gens très très motivés qui viennent se faire vacciner. Et puis ensuite, le but pour nous, évidemment, autorité sanitaire, c'est de pouvoir toucher les indécis et puis leur donner les explications nécessaires pour que ces personnes décident in fine en toute conscience et avec des réponses qui leur ont été données si elles souhaitent ou pas finalement se faire vacciner. Oui, on est là face à un défi aussi de communication et d'information qui se doit aussi d'être très simplifié et accessible pour des gens qui par exemple sont allophones, qui ne maîtrisent pas forcément notre langue. Donc on va miser aussi sur des stratégies de communication très simplifiées et aussi dans des langues étrangères avec différentes vidéos, comme on l'a fait d'ailleurs pendant la première phase de cette crise sanitaire où on a vu que ça marchait bien puisqu'on avait des vidéos qui étaient très regardées par des communautés qui maîtrisent mal le français.
La campagne mobile débutera mardi prochain à Valorbe, puis ira chaque jour de commune en commune. Les équipes passeront notamment à Vevey, Blenay, Aigle ou encore Lézin et les Diablerets.
Lancé en 2016, le PAC Lavaux est sur la table des députés vaudois.
Le projet de plan d'affectation a été transmis au Grand Conseil qui devra désigner une commission ad hoc. Sa mission, examiner le plan, les 160 oppositions et les remarques émises lors de la mise à l'enquête de 2019. Ses membres devront également dire s'ils souhaitent modifier le projet initial. De son côté, le Conseil d'État propose 3 assouplissements. Présentation avec Pierre Imhoff, directeur général du territoire et du logement.
Il s'agit d'une limitation de l'obligation de cultiver de la vigne. Il faut savoir que le plan qui a été mis à l'enquête était assez absolu sur le fait que dans la zone viticole, on ne pouvait cultiver que de la vigne. Or, on voit que historiquement, il y a d'autres cultures qui existaient en Lavaux. Il y avait des vergers aux tiges essentiellement autour des villages. Il y avait aussi quelques prairies, etc. Donc, il s'agit d'avoir une certaine ouverture dans ce cadre-là pour répondre aussi aux demandes des milieux viticoles. Il y a une diminution de la protection protection des murs perpendiculaires aux courbes de niveau. Ce qui est constitutif de l'image de Lavaux, ce sont les murs qui suivent les courbes de niveau. Et puis ces murs perpendiculaires servaient souvent à délimiter des parcelles. Ces parcelles ont parfois été réunies par un même propriétaire et ces murs ne sont plus utiles et c'est une entrave à une certaine mécanisation, une mécanisation qui sera de toute façon limitée du point de vue de la topographie. Et puis le troisième assouplissement, ça concerne les capitres de vigne avec un agrandissement de ces capitres jusqu'à 12 mètres carrés plutôt que les 9 mètres carrés qui étaient prévus initialement et la possibilité d'y stationner des véhicules à moteur, en l'occurrence des chenillettes.
À vous entendre, les vignerons ont bien été entendus par le canton.
Alors certes, mais les milieux de protection du paysage et de la nature aussi, puisque je dirais toutes les demandes n'ont pas été suivies non plus, et puis les assouplissements sont très mesurés.
Si la commission parlementaire décide de transformer le projet initial, le gouvernement propose qu'une enquête publique complémentaire portant uniquement sur les modifications ait lieu. L'adoption par le Grand Conseil et l'entrée en vigueur du PAC sont prévues pour 2022. Le canton de Vaud renforce ses mesures contre les nuisances sonores, en particulier celles liées à des modifications techniques non conformes apportées aux véhicules motorisés. Le service des automobiles et de la navigation intensifie dès à présent sa collaboration sur le terrain avec les polices vaudoises. Des contrôles plus fréquents s'ajoutent à un important renforcement des mesures administratives prises à l'encontre des contrevenants. Les sanctions iront jusqu'à la saisie immédiate du véhicule et à la destruction des pièces non homologuées dont il pourrait être équipé. Et transport toujours, à la suite d'un dérangement technique, le trafic est interrompu sur la ligne ASD entre Aigle et Le Cépet. Jusqu'à nouvel avis, les trains sont remplacés par des bus. Les arrêts intermédiaires ne seront quant à eux pas desservis.
Le comité vaudois pour le oui à la loi sur le CO2 a lancé sa campagne hier.
Face à la presse, un conglomérat de partis plutôt inhabituel pour la défense d'un même projet. Des représentants locaux et nationaux du PS, des Verts, des PLR et des Verts libéraux ont dit tout le bien qu'ils pensaient de cette loi soumise au peuple le 13 juin prochain. Une loi qui a donné lieu à des débats parlementaires riches en rebondissements et des alliances contre nature ces dernières années. Il y a un an, un compromis acceptable par le plus grand nombre a été finalement trouvé jusqu'à l'aboutissement en janvier dernier d'un référendum. À l'origine de la fronde, deux blocs distincts, certains milieux économiques soutenus par l'UDC qui trouvent que la loi va trop loin et certaines sections de la grève du climat qui trouvent, elles, qu'elle ne va pas assez loin. Cette critique des grévistes du climat, la conseillère aux états vertes à vaudoise Adèle Torrent la comprend. Pour autant, elle estime ce premier pas essentiel.
C'est juste, ce premier pas ne va pas assez loin, mais il n'empêchera pas d'autres pas d'être effectués. Au contraire, une acceptation positive et forte de ce premier pas nous permettra au Parlement de compléter cette étape avec de nouvelles mesures. Et je crois qu'il ne faut pas non plus minimiser le contenu de la loi. C'est une loi qui est vraiment crédible, avec des mesures dans tous les domaines importants du point de vue des émissions de CO2. En particulier, nous sommes parvenus à insérer dans la loi des mesures, certes encore insuffisantes, mais de premières mesures dans le domaine de la finance. Également, des mesures dans le domaine de l'aviation. Ce sont deux domaines qui ont un impact écologique important et pour lesquels nous n'avions aucune mesure jusqu'à maintenant.
Pour Adèle Torrent, en cas d'échec dans les urnes, la Suisse sera privée d'une politique climatique pour 2030. On la retrouve.
Les objectifs de l'accord de Paris ne figureront pas dans nos bases légales. Il faudra des années pour qu'une nouvelle loi voit le jour. Elle sera vraisemblablement moins ambitieuse puisque les milieux du pétrole auront gagné le référendum. C'est comme ça qu'on interprétera un échec de cette loi puisque le référendum qui a abouti est celui des milieux pétroliers et non celui des grévistes du climat. Ce serait une catastrophe pour notre climat puisque la politique climatique serait retardée, elle serait probablement moins forte à terme et nous n'avons vraiment pas les moyens d'attendre. Nous sommes en urgence climatique, ce sont les jeunes qui nous l'ont dit, qui nous l'ont affirmé et cette urgence climatique, elle exige qu'on fasse un premier pas le plus vite possible. Ce premier pas, c'est celui que représente la loi et il vaut vraiment la peine d'être fait pour aller plus loin.
Rappelons que selon les grévistes du climat qui s'opposent à cette loi, elle ne permettra pas d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, ni même l'objectif de l'accord de Paris de 2050. Les milieux économiques à l'origine du référendum, parmi lesquels des représentants de l'automobile, de l'aéronautique ou du bâtiment, la loi CO2 est, je cite, « coûteuse, inefficace, bureaucratique et étatisante ». Un sujet de notre consoeur de LFM, Donatella Romeo. Les jeunes sont exposés à des stimuli pro-alcool toutes les 5 minutes. Une étude effectuée par Addiction Suisse leur élève aujourd'hui. L'organisation a suivi 10 jeunes à Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich en automne dernier. La moitié des stimuli comptabilisés concernaient la publicité pour l'alcool ou des offres promotionnelles pour des boissons alcooliques, dont des incitations à consommer intentionnelles. L'autre moitié se composait de stimuli apparemment fortuits, bouteilles et canettes vides dans l'espace public, scènes dans lesquelles l'alcool jouait un rôle ou encore des offres sur la carte d'un restaurant. Les cantons et le Parlement devraient être impliqués le plus tôt possible dans la réalisation des travaux de déploiement des réseaux mobiles 5G. La commission compétente du Conseil des États a décidé à l'unanimité de déposer un postulat en ce sens après s'être penchée sur 3 initiatives cantonales qu'elle a rejetées. Rejet ainsi de l'idée d'un moratoire proposé par les cantons de Genève, Neuchâtel et Jura.
La famille, dite traditionnelle, reste largement la norme en Suisse.
C'est l'Office fédéral de la statistique qui le documente ce matin en brossant le portrait type des familles. Ainsi, 80% des enfants de moins de 25 ans vivent avec leurs parents, mariés dans 3/4 des cas. Les chiffres montrent que l'égalité des rôles dans la famille est loin d'être atteinte. Près de 4 mères actives sur 5 travaillent à temps partiel contre seulement 12% des pères. Détail de cet état des lieux de la famille en Suisse avec notre correspondant à Berne, Serge Hubin.
Les chiffres fournis ce matin par l'Office fédéral de la statistique couvrent les années 2018-2019. Ils ne sont pas affectés par les effets de la pandémie. Au-delà de la norme de la famille traditionnelle, qui continue d'avoir une haute cote en Suisse, l'OFS se penche sur les autres types de familles. 13% des enfants de moins de 25 ans vivent dans un ménage monoparental et 6% dans une famille recomposée. C'est connu, la situation financière des familles monoparentales est difficile. 1 sur 4 peine à joindre les deux bouts et 21% bénéficient de l'appui de l'aide sociale. En Suisse, un enfant de moins de 3 ans sur 3 est confié à une structure de garde extra-familiale, 40% aux grands-parents et aux mamans de jour. La Suisse est dans la moyenne européenne, avec pourtant davantage de recours aux grands-parents. Un élément à sortir encore des chiffres de l'OFS, le lien entre le type de famille et le bien-être. Le fait d'être en couple dope le bien-être et la santé. Plus de 80% des couples avec ou sans enfants se disent en bonne et très bonne santé. Ce chiffre descend à 75 et 78% pour les ménages monoparentaux et les personnes seules. 40% des couples avec ou sans enfants se disent très satisfaits de leur vie. C'est seulement 24% pour les personnes seules ou monoparentales.
Les entreprises de transport doivent aussi être soutenues en 2021. La commission compétente du Conseil des États a déposé par 11 voix contre 1 2 motions en ce sens. L'un des textes exige une révision de la loi sur le transport de voyageurs afin que la Confédération puisse verser des subventions aux entreprises de transport public, aussi bien pour le trafic local et touristique que de grandes lignes. L'autre demande un soutien financier pour les entreprises actives dans le transport ferroviaire de marchandises. Et puis l'agriculture suisse continue à observer un changement structurel. L'an dernier, alors que le nombre d'exploitations a baissé, elles ont été plus nombreuses à se tourner vers le bio. Ce type de production a été pratiqué sur 107 300 hectares, soit plus du double qu'il y a 20 ans, selon le relevé réalisé par l'Office fédéral de la statistique publié aujourd'hui. Elle a fortement augmenté dans les vignes. Le label bio a également concerné plus de la moitié des plantes aromatiques et médicinales, plus d'un tiers du soja et moins d'un quart des cultures maraîchères.
Le jour du dépassement de la Terre est atteint en Suisse.
Il tombe aujourd'hui. Cela veut dire que du 1er janvier au 11 mai, les résidents helvétiques ont consommé autant de ressources biologiques par personne que la planète en renouvelle en une année entière. Pour repousser cette date, il faut notamment adapter les infrastructures, mais aussi nos modes de vie en termes de consommation d'énergie et de ressources. Des conseils à retrouver sur le site de Global Footprint Network à l'origine du calcul. À l'étranger, 11 personnes ont perdu la vie ce matin lors d'une fusillade qui s'est déroulée dans une école de Kazan, grande ville du centre de la Russie. L'un des tireurs, un adolescent, a été interpellé et un autre tué, selon des agences russes. En réaction, le président Vladimir Poutine a ordonné un passage en revue des règles autorisant le port d'armes dans le pays. Et puis l'ONU dénonce le recours excessif des forces de sécurité israéliennes ces derniers jours à Jérusalem-Est. Elle a appelé aujourd'hui à Genève aussi bien Israël que les groupes extrémistes palestiniens à honorer le droit international humanitaire. Des tirs entre les deux parties cette nuit a fait plus de 20 morts à Gaza et une centaine de blessés. Le djihad islamique annonce la mort de 2 de ses commandants. Selon le dernier bilan de l'armée, 200 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël hier, dont plus de 90% ont été interceptées par les boucliers antimissiles. puis en hockey sur glace, la pandémie de Covid-19 n'a pas eu raison du rêve américain de Noé Ben Salem. Le jeune défenseur de la Tour de Paix sort de sa 3e saison disputée dans les ligues juniors aux États-Unis. Lors du dernier exercice, le joueur formé à Monté a porté le maillot de l'équipe des Rome River Mallards, située dans le Minnesota au nord du pays. En 29 matchs, le Vaudois a amassé 24 points. Mais si le bilan est positif au sortir de l'hiver, rien n'aura été simple durant les derniers mois pour le hockeyeur de 19 ans. La crise sanitaire a en effet eu des conséquences, notamment sur l'organisation du championnat. Les explications de Noé Ben Salem.
Il y a eu surtout le reprogrammement des matchs, vu qu'on n'a pas pu jouer pendant quelques semaines. On a enchaîné match par match, je pense, pendant 2 mois. C'était de 3 à 4 matchs par semaine, donc ça fait beaucoup. Mais je pense que moi et mon équipe et moi, on a pu gérer ça. Et puis, surtout pour moi, avec beaucoup de temps de jeu, j'ai eu, je pense, à 40-45 minutes de temps de glace des fois, ça fait énorme. Mais je pense pour ma condition physique et puis surtout mentalement, c'est un beau travail. C'est vrai que c'est dur, mais il faut gérer. Et puis, je pense que ça va apporter ses fruits pour le futur.
De manière plus générale, puisqu'on parle de contexte sanitaire, on a vu que les États-Unis étaient très touchés par ce virus-là. Il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de morts aussi. Les vaccinations, maintenant, ont commencé. C'est très efficace à ce niveau-là. Vous, comment vous avez vécu cette situation ?
Bah, écoutez, moi, j'ai pas eu vraiment le choix. Le club m'a proposé directement de faire le vaccin il y a quelques mois de ça en arrière. Donc, on n'a pas été obligé. Mais quand tu vois qu'il y a 17 gars qui le font, tu te sens un peu bête de dire non, moi, j'ai pas envie de le faire. Donc, tu le fais aussi. C'est vrai que ça facilite la chose. Tu peux voyager plus tranquillement. Il y a beaucoup moins de restrictions. Surtout dans le vestiaire et tout ça, moins besoin de porter le masque. Et puis surtout faire des activités ensemble, bowling et tout ça, ça aide pas mal.
Parce que là-bas, il y a quand même moins de restrictions qu'ici, typiquement en Suisse.
Alors ça, c'est vrai que ça m'a pas mal choqué quand je suis arrivé. Moi, j'ai de la famille de cœur à Dallas aussi, donc j'ai été par là-bas pendant quelques mois. Et c'est vrai que c'est assez choquant quand tu vois tout le monde dans le magasin, tout le monde, il y a tout qui est ouvert, les boîtes de nuit sont ouvertes. Non, c'est vrai que c'était cool de pouvoir quand même avoir un certain rythme de vie qui change pas trop. Et je suis content, mais je sais que pour les jeunes, même ici en Suisse, c'est compliqué. Tout qui est fermé, en plus, dans notre génération, rester à la maison, c'est pas le meilleur. Et puis, j'espère juste que ça pourra changer dans les prochains mois, quoi.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Pour Noé Ben Salem, l'objectif est maintenant de vivre de sa passion. Pour tenter de devenir joueur professionnel, il participera au camp d'entraînement au mois de juillet du Delaware Thunder, une équipe basée dans la région de New York.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec le Suisse Vapeur Park au Bouvray, un moment d'évasion pour tous, ouvert tous les jours de 10h à 18h. SuisseVapeur.ch.
C'est globalement la soupe à la grimace en ce qui concerne la météo, puisqu'aujourd'hui beaucoup de nuages, peut-être quelques éclaircies en pleine chablaisienne, mais Météo Suisse nous avertit que les averses seront possibles à tout moment de cet après-midi, en pleine comme en montagne, et puis elles auront tendance à devenir plus continues en soirée, voire même localement orageuses. En ce qui concerne la neige, elle va tomber jusque vers 2300 mètres d'altitude, elle va s'abaisser jusque vers 1800 mètres ce soir, et il faudra rajouter à tout ça des rafales de nord-ouest probables en fin de journée. Il va faire au maximum 13 degrés en pleine, 10 à 1000 mètres. Pour demain, le matin, le temps sera encore bien nuageux, avec beaucoup de nuages, notamment sur les Alpes vaudoises, mais le temps sera généralement sec, et puis il y aura un petit peu de soleil l'après-midi, avec même beaucoup de soleil, en tout cas un peu plus qu'en montagne, ça va être le cas en pleine, et puis de nouveau, par la suite, beaucoup de nuages, et puis bien de la pluie qui va revenir la nuit, qui concernera la nuit de mercredi à jeudi. Pour demain, mercredi, 16 degrés au maximum en pleine, 12 à 1000 mètres.